C'est vrai, le sujet aujourd'hui, et c'est bien parce que c'est moi qui ai choisi le sujet, une action missionnaire qui honore Dieu. Et c'est un sujet très large parce que, étant donné qu'il y a, moi je regarde, je remarque ici, il y a des missionnaires partout. J'étais un peu, hier, un peu perturbé un petit peu par une remarque que j'ai entendue une Française remarque hier dans mon oreille. Elle a dit, vous savez que ce que je remarque, il n'y a que les missionnaires américains là. Bon, ce n'était pas tout à fait vrai. Peut-être j'en ai aujourd'hui un peu de majorité, peut-être ici aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une place pour les Français d'être le missionnaire? Est-ce qu'il y a la commission que le Seigneur Jésus-Christ a laissée avec ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, est-ce que c'était simplement pour les Américains? Donc, je ne pense pas. Je pense que la commission, que le commandement que le Seigneur a donné à ses disciples, c'était à chacun, chaque chrétien, chaque croyant. Et c'est avec ce passage que j'aimerais bien commencer dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous connaissez peut-être, j'espère, par cœur ce verset qui dit, « Mais vous, la Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aimerais bien de prier encore avant de commencer le message. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci pour ta parole. Maintenant, nous te demandons que tu parles à nos cœurs. Et Seigneur, je te demande personnellement que tu utilises chaque mot qui sort de ma bouche pour nous convaincre, pour nous exhorter, pour nous montrer le besoin qui est autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le sujet est bien tombé pour moi, personnellement, aujourd'hui, parce que demain, dans notre église, l'église baptiste de Montrouge, nous allons avoir la quatrième conférence de missionnaires annuelle à l'église baptiste de Montrouge. Quand je suis arrivé en France il y a quelques années maintenant, j'ai remarqué que la première chose que notre église doit faire, une des premières, c'est-à-dire c'était donner à les membres un fardeau pour les autres, un fardeau pour être les missionnaires. Et c'était pour nous, comme église, de s'engager comme une église, d'aider, d'évangéliser, pas simplement Montrouge, pas simplement la région parisienne, mais d'évangéliser le monde. Amen. Et donc, c'est ça qu'on a fait, et donc, grâce au Seigneur Jésus-Christ, et grâce à la fidélité de notre Sauveur, le Seigneur a nous accordé un programme de missionnaires. Et actuellement, aujourd'hui, on a 6 missionnaires et projets missionnaires que nous soutenons régulièrement avec les dons de Dieu, avec l'aide de chaque personne dans notre église. Et donc, je suis très fier de fait que le Seigneur nous a accordé ce fardeau. Donc, pour une action missionnaire qui honore Dieu, j'ai remarqué simplement quelque chose. Bien entendu, c'est comme je viens de vous dire, c'est un sujet très large. On peut prêcher pendant des années sur ce sujet-là. Mais j'ai remarqué simplement quelques choses que j'aimerais bien de partager avec vous. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est une action missionnaire qui honore Dieu. C'est une action volontaire. C'est une action volontaire. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 6. Ésaïe. Chapitre 6, et j'aimerais bien de regarder l'exemple d'un prophète de Dieu, Ésaïe, chapitre 6, à partir de verset 1.
c'est une action volontaire. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. Et Ésaïe lui-même, 500, 600 ans avant Jésus-Christ, a vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a vu le Seigneur, la Bible nous dit. Assis sur un trône très élevé, et les pains de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous voyez que ce qu'on voit ici, c'est que le prophète Ésaïe a vu le Seigneur dans toute sa splendeur. Il a vu Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le roi des rois, dans toute sa splendeur. Et donc, quand le roi, le Seigneur, a lancé donc cette question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le prophète Ésaïe a dit, « Me voici. » Envoie-moi. Moi, j'étais dans la marine américaine. J'ai toujours entendu les gens dire, jamais lève la main pour volontiers pour rien, hein, parce que c'est la plus mauvaise chose que vous pouvez faire. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur, d'être un missionnaire, c'est pas quelque chose qui est obligé. Je n'aime pas ce mot exigence. Et donc, je dois vous confier quelque chose un peu de moi-même. Quand j'étais sauvé, et quand j'ai su que le Seigneur a voulu quelque chose de moi, je me suis dit, Seigneur, je suis prêt de faire n'importe quel pour toi. J'ai dit ça avec la bouche. Mais derrière la tête, je me suis pensé, j'aimerais bien avoir une grande église. J'aimerais bien être un grand évangéliste. Je vais faire tout sauf. Je ne veux pas être missionnaire. J'avais ça dans la tête, hein. Parce que je pensais, voilà, c'était quelque chose qui était exigence, qui je ne peux pas le faire. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Après avoir assisté à plusieurs des conférences de missionnaires dans notre église, j'ai remarqué que les missionnaires sont les plus bénis des personnes du monde. Ils disent que nous sommes un peu fous parfois. On doit rigoler, on doit rire. Parce que c'est un privilège.
Amen.
De servir le Seigneur Jésus-Christ dans n'importe quel domaine. Et donc, je remarque ici que Ésaïe, il se présentait pour être envoyé. Il a dit, bois, prends-moi. Moi, je suis prêt, prends-moi. Mais il fallait que quelque chose arrive dans la vie d'Ésaïe avant qu'il était à ce point-là. Vous voyez, il y avait quelque chose qui devait être avant cela. Avant quelqu'un peut dire, oui, prends-moi, je suis prêt. Il faut que quelque chose arrive dans sa vie. Moi, j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui arrivaient avec Ésaïe avant qu'il ait arrivé là. Premièrement, il a vu quelque chose. Premièrement, il a vu le besoin dans sa propre vie. Regardez verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Vous savez, après avoir vu Jésus-Christ, personne ne peut voir Jésus-Christ sans de voir le besoin dans sa vie. Personne ne peut voir Christ sans de voir qu'il a vraiment besoin dans sa vie. Moi, vous savez qu'aujourd'hui, il y a cette grande manifestation de cette bénédiction de Toronto, j'ai entendu. Il y a des gens qui se réunissent et commencent à rigoler, de rire, d'éclater de rire. Parce qu'ils sont là dans la présence de Dieu. C'est pas comme ça, mesdames, messieurs. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez tomber sur votre visage. Vous allez être comme Isaïe en disant, malheur à moi. Je suis un homme perdu. Il a vu qu'il avait un besoin dans sa vie. Isaïe. Pas seulement a-t-il vu le besoin dans sa vie. Il a vu le besoin dans le monde. Encore verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont mes lèvres sont impures. Et en plus, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il habitait dans le monde, perdu, un monde plein de péchés. Et moi, je me souviens à Highland Park Baptist Church, c'était notre église aux États-Unis. Il y avait une conférence de missionnaires chaque année. Et ce qu'ils faisaient là, ils avaient un grand, une sorte de un compteur qui compte à chaque seconde combien de personnes meurent à chaque instant, à chaque seconde. Le moment qu'ils ont commencé le premier message dans la conférence, ils faisaient déclencher ce compteur. Et vous pouvez regarder tout le monde là. Il y a, dans notre église là, il y avait 6 000, hein, 6 000 personnes là, à la place. C'était une petite église, voilà. 6 000. Hein? Et là, un grand compteur en rouge, les lettres rouges, qui était là, qui tape dans le cerveau là. La personne, moi, je commence à regarder. Et je dis, c'est pas possible. Les personnes qui meurent. Qui meurt. Pendant qu'on a parlé, de temps ce matin. Et pendant qu'on a parlé, combien de personnes sont allées en éternité, dans l'éternité, sans Jésus-Christ comme sauveur? On ne peut pas assister à une réunion comme ça sans avoir commencé d'avoir un fardeau pour les êtres humains, n'est-ce pas? On ne peut pas, c'est pas possible. Ça a commencé à travailler dans mon cœur. Ça a commencé. J'ai commencé d'entendre une petite voix du Seigneur. Est-ce que tu es prêt de faire cela? Si je te demande, est-ce que tu es prêt? J'ai essayé de tourner l'autre oreille et j'ai dit, Seigneur, c'est pas moi que tu veux, c'est pas moi. Ce n'était pas comme, malheureusement, ce n'était pas exactement comme Isaïe, le moment, oui, envoie-moi. Envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Voilà. Il a vu le besoin dans sa propre vie. Il a vu le besoin du monde. Mais plus que ça, il a vu le roi de voir. Regardez dans verset 5 encore. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Vous savez, Vous connaissez l'histoire de cette dame qui était avec le Seigneur quand il a été invité de dîner avec le pharisien là. Et donc cette dame qui était en dessous de table à ses pieds, qui pleurait ses larmes, on lavait les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Elle a essuyé ses pieds. Pourquoi? Elle a vu le roi. Elle était avec le roi. On ne peut pas, quand on a vu Jésus-Christ, quand on a vu ce qu'il a fait pour nous, c'est un privilège de dire oui, Seigneur.
Amen.
Envoie-moi. Seulement, pas seulement a-t-il vu quelque chose, il a reçu quelque chose aussi. Il a reçu le pardon de ses péchés. Verset 6 nous dit. Mais l'un des serpents vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il a reçu le pardon de, péché, de ses péchés. Premièrement, il a vu sa besoin. Il a vu le besoin du monde. Il a vu Jésus-Christ, le roi de roi. Et il a reçu le pardon de ses péchés. À ce moment-là, après tout cela, il était prêt. Il a été prêt de dire oui. Envoie-moi. 4 mois après que j'ai reçu Christ comme mon sauveur, j'étais invité. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais concessionnaire de voiture. Hein. Donc, j'étais dans le monde de commerce, de business, si vous voulez. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi vous m'avez sauvé? Pourquoi? Et j'ai demandé cette question depuis le moment que j'ai reçu Christ. 4 mois plus tard, j'ai commencé à savoir. J'étais invité d'assister à une conférence en Indiana, donc dans le Pastor School de Hammond, Indiana, aux États-Unis. On a commencé la conférence le lundi matin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Encore là, il y avait au moins que 3 000 à 4 000 pasteurs. Et si vous n'êtes jamais dans au milieu, on a combien de pasteurs missionnaires ici? On a quoi? Une dizaine ici, peut-être aujourd'hui. Mais d'être au milieu de 3 000 pasteurs, prêche, amen, voilà, tout cela. C'était vrai, déjà l'émotion, hein. C'était comme un fil d'électricité. C'était comme ça, ce n'était pas comme le charismatique. Vous savez qu'on a perdu quelque chose au milieu de Baptiste. On a trop peur parfois de montrer notre émotion en disant, ah, les gens en français, vous êtes pentecôtistes charismatiques. Je sais qu'on ne peut pas vivre sous l'émotion, mais parfois l'émotion c'est bien. Hein? Et là, quand je suis entré là, j'ai remarqué tous ces gens-là. Et j'ai dit, qu'est-ce que je me suis arrivé? J'étais sauvé que 4 mois. Je savais qu'il y avait autant de chrétiens dans le monde. Hein? 3 000! Mais ces gens qui étaient prêts de faire n'importe quoi pour le Seigneur. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'avais 39 ans. Le bébé, ma femme m'a dit, qu'est-ce que lui? Je dis, je suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne dors pas dans les arbres. Comme ça. Jeudi. 4 jours plus tard, après avoir assisté lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était le soir, jeudi soir, Dieu m'a donné sur le balcon, là dans cette église, il y avait une place pour 4 000 à 5 000 personnes, j'oublie exactement. Là, il y avait un balcon. Moi, j'étais au centre du balcon, juste en face du pupitre, là. Donc, voilà, donc j'étais là. J'ai commencé à pleurer encore. Encore ma femme, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Là, il y avait un prédicateur qui s'appelle Dan Parr. Il était un pasteur d'une église en Indianapolis, en Indiana. Et ce pasteur avait environ 48 ans. Mais 2 ans plus tôt, il avait entendu de nouvelles qu'il avait le cancer de bouche, de la bouche et de la gorge. Ils allaient enlever la moitié de sa bouche et la moitié de sa gorge. Il était même dans l'hôpital à Chicago avec une température de 203 Fahrenheit. Ça fait quoi? Ça correspond à 38, je ne sais pas, 38, 39. 39. Quand il est arrivé là, dans le meeting là, la réunion, il avait 2 infirmières, un infirmière sur ce bras-là, un autre sur cela. Il avait derrière lui une grande bouteille d'oxygène. Il avait un masque comme ça, un truc comme ça. Il a mis ça sur le premier rang là.
quand c'était son tour de prêcher,
ah, les infirmiers, ils ont pris ce chapeau, ils montaient sur le stade comme ça. Il venait vers le pupitre, tout ça, il tenait comme ça, comme il était en train de tomber. Cet homme a commencé à prêcher. Il a dit, vous savez, que j'ai fait une promesse à le pasteur Dr. Hiles il y a un an. Il m'a demandé si je voulais porter un message dans cette conférence. Il a dit, je voulais tenir ma promesse. Même il fallait que je signe un papier à l'hôpital en prenant toutes les responsabilités de moi-même pour ma santé physique. Cet homme a commencé à prêcher, et toi tu as prêché une heure cinq minutes près. Cet homme a prêché un message qui a duré 2 heures.
Avec une voix comme ça.
Parce que ça gorge, ça bouche. Mais ce que je me souviens, il a dit, qui va prendre ma place? Ils m'ont dit que je vais mourir. Mais qui va prendre ma place? Le monde meurt. Et à ce moment-là, quand il commençait à prêcher comme ça, moi j'ai entendu dans mon cœur. Et à ce moment-là, je savais pourquoi je pleurais. Parce que le Seigneur a voulu des volontaires. Et quand le message était terminé, le pasteur Hiles se levait, il a dit, je crois que le Seigneur a appelé quelqu'un de prêcher sa parole ce soir. S'il t'a appelé, lève-toi maintenant. Moi, j'étais en face de lui. C'était comme il a pointé le doigt à moi, c'est comme il était Dieu lui-même. Je me suis dit, ouais, moi. Il a dit, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme il était terminé, il y avait 51. Il a dit, si vous êtes sincères, sors votre place maintenant, viens ici, on va prier pour vous. Ma femme a dit, ma femme a pris comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, moi, je sais rien du tout. Hein? Je sais rien du tout, mais je m'en vais. Laisse-moi partir. C'est arrivé, hein? Je me suis descendu des escaliers, je me suis traversé le petit chemin là qui mène au pupitre. Et encore une fois, il a pointé le doigt et c'était exactement moi. Il a dit, jeune homme, je n'étais pas si jeune à cette époque-là, j'avais 39 ans. Il a dit, jeune homme, le temps est court. Il faut commencer de se préparer, trouver une bonne école et commencer de se préparer pour servir le Seigneur. Qui va prendre notre place? Ça fait presque 10 ans maintenant que je suis en France. Je commence par le veiller, mais tout. Mais qui va prendre ma place dans quelques années? Quelqu'un m'a dit qu'en France, 80 ou quelque chose comme ça, les missionnaires américains, les missionnaires en France, dans quelques années, ils vont prendre la retraite. Qui va prendre la place? Une action missionnaire qui en réduit, c'est premièrement une action volontaire. Deuxièmement, c'est une action d'obéissance. Regardez Amos. Amos chapitre 7. Amos chapitre 7. Versets 14 et 15. C'est une action volontaire, c'est une action d'obéissance. Amos, chapitre 7, verset 14 et verset 15. Amos répondit à Amathazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Dans ce passage-là, dans ces deux versets simplement, je vois trois choses. Premièrement,
que l'appel de Dieu peut venir à n'importe quel moment dans notre vie. N'importe quel moment. Verset 14 nous dit, Amos répondit à Amathasiah, je ne suis ni prophète, il n'était pas un prophète, ni fils de prophète, ni, même dans sa famille, il n'y avait pas de prédicateur en lui. Mais je suis berger, il avait une occupation, il était berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau pendant qu'il faisait son œuvre. Il n'avait aucune idée, Amos, n'avait aucune idée que le Seigneur va lui appeler pour prêcher au peuple juif. Il n'avait aucune idée là. L'appel de Dieu, qui peut venir à n'importe quel moment dans notre vie, et pour apporter l'évangile à un peuple prédéterminé par Dieu, c'est Dieu qui choisit. Il y a des gens qui me demandent, mais Alain, pourquoi vous avez choisi les Juifs? Moi, je n'ai pas choisi les Juifs. Laisse-moi vous dire. Si j'avais l'opportunité de choisir, je pense que j'aurais choisi, je ne sais pas, dans le pays Sud-Amérique, peut-être en Mexique, parce que je lis les lettres de missionnaires, les lettres de prière des missionnaires qui travaillent dans ce pays-là, ils gagnent 5 000, 10 000 personnes par deux semaines. Donc, je ne sais pas si ça c'est vrai ou non, mais moi j'aurais choisi ça, pas les Juifs. Et surtout pas France. France. Non, je n'ai pas choisi les Juifs. Je n'ai pas. Dieu a voulu que je prêche au peuple juif. Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Nous qui n'avons pas, qui cherchent la volonté de Dieu maintenant. Dieu, il a un plan spécial. Et un peuple spécial pour vous. Amos, là, était simplement obéissant à l'appel. Obéissant d'aller pour porter l'évangile à un peuple prédéterminé par Dieu et pour porter l'évangile dans une ville prédéterminée par Dieu. On peut regarder la vie de Jonas. Dieu a voulu qu'il va à Ninive. Pourquoi? Ninive, la ville, avait besoin de l'évangile, avait besoin de Jésus-Christ, avait besoin de Dieu. Je ne suis pas de cette école. Il y a deux sortes d'écoles pour les missionnaires qui disent si j'aurais allé dans un autre pays, j'aurais été dans la volonté de Dieu, pas du tout. Dieu a voulu que je vienne en France. Dieu a voulu que j'aille dans l'école dont je suis allé. Parce que c'est là que j'ai rencontré Dr. Jacob Gardenhouse, qui était le chef de notre mission. C'est là que j'ai vu les conférences de missionnaires chaque année. Notre église soutient 500, plus que 500 missionnaires chaque mois, notre église. Dieu a voulu que j'aie eu un enseignement, un désir, de voir tous ces missionnaires, toutes ces choses-là pour me former, là, pour me préparer pour mon ministère futur. Vous vous dites, mais pourquoi Montrouge? Moi, je ne sais pas Montrouge. Et il m'a appelé là. On a vu que une action missionnaire qui honore Dieu, c'est une action volontaire, c'est une action d'obéissance. Troisièmement, c'est une action d'amour dans une équipe. Une action d'amour dans une équipe, entre les églises et les missionnaires. Regardez avec moi, premièrement, comment ça peut être une action d'amour dans une équipe, entre les églises et les missionnaires, parce que les missionnaires, premièrement, ils ont besoin de la prière. Regardez en 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et pervers, car tous n'ont pas la foi.
J'aimais ce que Bernard nous a dit tout à l'heure. Dans son église, là, il a les photos, il a les lettres de prière, il a tout cela, afin que ces jeunes, les membres de son église, peuvent prier pour ses missionnaires, pour ses serviteurs de Dieu. On a besoin de la prière, mesdames et messieurs. Mm-hmm. Moi, personnellement, avec notre mission, moi, j'ai plus que 1000 personnes. Donc, j'ai envoyé la lettre à prière. Moi, je reçois toujours les lettres des petites madames, des petites mères, grand-mères, qui disent, Monsieur Lord, un prix pour vous, un prix beaucoup pour vous. On a besoin de ça. L'œuvre du Seigneur, parfois, c'est pas rose, parfois. J'étais à Place Saint-Paul, un jour, en train de prêcher, là. Il y avait un groupe autour de moi. Et là, j'étais en train de prêcher. Et là, j'ai remarqué que tout le monde avait les yeux tournés à droite, là. Et là, à l'autre côté de la rue, il y avait un juif qui avait un grand chien de berger allemand. Et voilà, il a délaissé le chien, il a dit, mord-lui. J'ai remarqué tout le monde. Moi, je ne sais pas ce que j'étais en train de prêcher. Mais j'étais en train de prêcher en français, mais j'étais en train de prier en anglais à la fois. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais ça se fait là-bas. Je n'ai pas voulu de regarder le chien, hein, parce que j'ai tout le monde regarde comme ça. J'ai entendu le juif. Et voilà, je regardais avec l'œil comme ça, le chien était en train de traverser la rue là, en plein courir là. J'ai tourné le visage à gauche pour pas voir, c'est comme en prendre une piqûre là, chez l'infirmière. On ne peut pas voir la piqûre entrer, ouh là là, j'ai pas voulu le voir les dents entrer dans le jambe là. Et voilà, j'ai tourné le. J'ai continué de prêcher, j'ai regardé la tête, c'est comme on était dans le match de tennis, vous voyez, comme ça. Voilà, j'ai regardé la tête, Et on se dit, j'ai fait comme ça. Et j'ai remarqué, j'ai fait comme ça, et tout le monde. Ah, j'ai remarqué, ils avaient un sourire, tout le monde. J'ai dit, pourquoi ils sourient? J'ai regardé comme ça, et le chien était juste avec le nez sur les jambes, mais le cœur était fait comme ça. Je dis merci les petites grand-mères qui sont aux États-Unis qui sont en train de prier pour moi au moment que je suis au milieu de bataille à Paris. Vous savez, on a besoin de prier les uns les autres. Vous dites, mais pourquoi on a besoin d'un programme de missionnaires dans notre église? Pourquoi? Est-ce que c'est pour nous à dire avant d'envoyer des missionnaires? Non. C'est pour travailler ensemble avec les églises, avec Dieu et les missionnaires. Mm-hmm. C'est un travail d'équipe. Mm-hmm. L'un exhorte l'autre. On a besoin de l'autre, l'un des autres. Ce n'est pas une exigence. Parfois, je demande, dans notre église, nous demandons que les missionnaires nous donnent le numéro régulier. Parfois, ils font, ça c'est un peu d'exigence. Non, ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas un accident. Nous demandons de nouvelles. Pourquoi? Parce que nous voulons de savoir comment prier pour ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le ministère? C'est une action missionnaire et une action d'amour de l'équipe entre l'Église et le missionnaire dans la prière et aussi dans la finance. On ne peut pas oublier ça. La finance. Regardez Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 14. On a besoin des finances pour pouvoir pour le besoin matériel des missionnaires. Regardez dans verset 14. Cependant, le porte Paul qui parle à l'église de Philippie, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Apparemment, le porte Paul avait un problème financier. Hein? Donc, et cette église avait décidé d'aider l'apôtre Paul dans ses problèmes, avec ses problèmes financiers. Moi, j'ai un ami, il est peintre, il est artiste en Amérique, il vient en France. Et bon, il est mon ami, hein. Il est venu il y a quelques années pour la première fois. Il a voulu d'aller en fleurs. En fleurs, parce que là, c'est là tout le peintre, là. Et voilà, on a trouvé un petit café là. Il a dit, bon, je vous offre un petit café. Il dit, d'accord, moi, j'avais ma femme, moi, lui, et notre membre, notre église, était là. On était quatre. On est allé, on a pris un café, chacun a eu un café, un petit croissant, et bon, il y avait une petite boîte de confiture qu'il a acheté comme cadeau pour ma femme. Et voilà, on a bu notre petit café, voilà, il était prêt d'aller, il a mis la note, s'il vous plaît, voilà, ils ont emmené la note, voilà. Ah, c'est Dieu était comme ça. Mm-hmm. 280 300 francs, du blé, hein. Il a dit, le dollar, ça fait combien maintenant? Je dis, il a sorti le cap, il a dit, ça, là. Vous vous rendez compte? $60? Quel café? Wouh! Là, sa tête était comme ça. Il a dit, Alain, vous avez besoin de mes prières, mais vous avez besoin plus de l'argent ici, voilà. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas simplement. Je n'imagine pas que l'apôtre Paul avait besoin de café là quand il était dans détresse. Mm-hmm. Mais quand même, ça prend de l'argent, mesdames et messieurs. On doit parler des choses terrestres parfois. Hein. On doit être honnête avec nous-mêmes. On dit parfois, on dit, ah, le missionnaire, voilà, ils n'ont pas besoin, voilà, il vit sur le foie. C'est vrai. Mais on ne peut pas dire ça à la IDF, JDF, ni la France Telecom, la première de mois. Ils ne font pas le foie. Ils veulent l'argent, n'est-ce pas, Robert? Ouais. Bon, l'amour dans une équipe, dans la prière, pour le besoin matériel. Même si les autres églises n'ont pas donné, l'église de Philippi, comment dit-on ça? Philippi? Philippi? Dis-moi encore.
Philippia.
Oui, mais l'église, c'est dans quelle église? Quelle ville? Philippe. Ah, d'accord. Parce qu'on dit Philippe en anglais, je sais pas. Philippe, voilà. Verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entre en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. C'était la seule église, le seul. Et l'église et l'apôtre Paul avaient commencé beaucoup des églises. Hein. Mais il n'y avait qu'une seule église qui avait le cœur d'aider ce missionnaire, l'apôtre Paul. Parfois, il y a des gens qui donnent l'excuse. Mais monsieur, pourquoi on a un grand programme de missionnaires? Moi, je connais les églises qui n'ont pas de programme de missionnaires, ils fonctionnent bien, voilà. Je dis, bon, ça c'est à chacun. Mais nous ici, à l'église baptiste de Montrouge, le Seigneur m'a donné le cœur d'aider les missionnaires, on va faire. On ne peut pas compter ce que le monde fait, ce que les autres font. Moi, je n'ai jamais aimé ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Et apparemment, l'église des Philippiens, ils ont voulu aider l'apôtre Paul. Ils ont aidé, oui, régulièrement. Regardez verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire quand vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir mes besoins régulièrement, le soutien. Venez régulièrement. Et aussi, pourquoi ça doit être en équipe? Afin que les églises puissent recevoir les bénédictions. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans verset 17. Ce n'est pas que je recherche le don. Les noms. L'apôtre Paul savait comment de vivre dans le superflu et dans le 17. Il ne cherchait pas les dons. Hein? Il savait que le Seigneur pouvait
pourvoir pour tous ses besoins. Le Seigneur par les églises. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre camp. Vous savez, dans les églises où il n'y a pas de programme de missionnaires, vous savez qui souffre? Ce n'est pas les missionnaires. C'est les églises. C'est les membres de l'église qui souffrent. Parce que Dieu a fait quelque chose là. Vous donnez et vous allez recevoir les bénédictions spirituelles pour cela. Quand les gens là-bas entendent qu'il y a quelqu'un dans l'église baptiste qui a reçu Christ comme sauveur, ou un juif même qui a reçu un traité, ou un juif qui a reçu une Bible, c'est rempli avec joie. Je reçois la lettre, la lettre, la lettre. Des gens, parce qu'ils sont encouragés. Ils ont un parti de ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de nous donner de l'argent, de tout cela. Non, non, ça n'a rien à faire. Moi, je ne compte pas du tout sous mes églises, ni l'euro que l'autre missionnaire qui est là, pour l'argent, pour nous aider, pour nous assister. S'il y a personne qui nous envoie de l'argent pour vivre ici en France, et Dieu veut que je reste en France, je vais rester en France. Mais Dieu a fait un ensemble, une équipe, église, missionnaire, travailler ensemble pour le bienfait du royaume de Dieu. Et donc, avec l'église puisse recevoir des bénédictions spirituelles de Dieu, avec leur don volontaire, regarde verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous savez que l'Église a donné pas par contrainte, ils ont donné parce qu'ils ont aimé. C'était un sacrifice de bonne odeur qui montait dans le narine de Dieu parce qu'ils ont voulu le faire. Esaïe a donné sa vie volontairement comme un don volontairement comme un don de sacrifice. Et voilà, ils ont, afin que les églises puissent recevoir les bénédictions spirituelles de Dieu avec leur don volontaire, et afin que les églises puissent recevoir les bénédictions matériel aussi. Il y a deux sortes de bénédictions là. Spirituel, verset 17, et matériel, qui vient dans verset 19. Et combien de fois nous, chaque chrétien, nous avons pris ce verset-là pour nous-mêmes et nous donnons aucun centime pour aider les missionnaires. À mon avis, si nous n'aidons pas les missionnaires, nous n'avons pas le droit de prendre verset 19 pour nous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous, les Philippiens, qui ont sacrifié, qui ont donné régulièrement aux besoins de l'apôtre Paul. Nous n'avons pas le droit, mesdames, messieurs, de prendre ce verset dans notre vie si nous ne aidons pas l'œuvre de Dieu et le missionnaire. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.
Amen.
Une action missionnaire qui honore Dieu, c'est une action volontaire, une action d'obéissance et une action d'amour dans une équipe. Et dernière chose, une action qui n'oublie pas les Juifs.
Amen.
Moi, je ne peux pas parler aujourd'hui sans parler de ce qui est dans mon cœur, c'est le peuple juif. Regardez Romains 1, 16, vite fait, on va terminer. Romains 1, 16. Et l'apôtre Paul a dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juif premièrement, et puis des Grecs.
Un programme de missionnaire, même si vous commencez, même si vous n'avez pas encore commencé dans votre église, un programme de missionnaire sans un programme qui essaye de toucher le peuple juif, n'est pas un programme complet. Dr. Gardenhaus a toujours dit, je suis un juif complet après il a reçu Christ.
Mm-hmm.
Un juif complet. Et un programme de missionnaire sans un programme qui va chercher le peuple d'Israël, qui a un cœur pour le peuple juif, ce n'est pas un programme complet. Il y a une église en Kansas, Wichita, Kansas. Peut-être quelques-uns de vous connaissez cette église. Et je ne pense pas qu'ils diraient les choses contre ce que je vais dire, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font là-bas. Le nom de cette église, c'est l'église Baptiste du Messie.
Mm-hmm.
Vous imaginez ça, un nom comme ça, pour aimer les juifs. Et le pasteur, par son témoignage personnel à moi, il a dit, Alain, vous savez, il y a, maintenant, ça fait, il m'a dit, il y a environ 20 ans, notre église avait un petit programme de missionnaire. On a fait une promesse de je ne sais pas, je vais prendre le chiffre, je crois, environ 5 000 $ par an pour le missionnaire, qui était presque rien. Il a dit, je priais, je demandais à Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager notre église de donner plus pour le missionnaire. Il a dit, le Seigneur m'a montré un passage, là, Romains 1,16, il a dit, ah, c'est ça le problème. Nous n'avons pas un cœur pour le peuple juif. Et il a commencé d'inviter les missionnaires qui vont au peuple d'Israël, au peuple juif. Et vous savez que maintenant, il y a 20 ans plus tard, ce pasteur est mort, il est mort. Le pasteur qui a pris sa place, il a le même cœur que votre pasteur pour le peuple d'Israël. Et maintenant, ils ont un programme de plus que 500 000 $ par an pour le missionnaire. Pourquoi? Parce que ce pasteur avait un cœur pour s'engager avec des missionnaires qui vont pas simplement eux, mais il a mis dans son programme d'aller évangéliser le peuple juif. Et si on oublie le peuple juif, on oublie tout. Et je vous encourage, vous qui sont des pasteurs, qui ont des églises partout, si vous n'avez pas un programme de missionnaire, que vous vraiment vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut nous aider de faire dans notre église? Et surtout, n'oubliez pas le peuple d'Israël. Yes,
amen.
Amen. Amen.